Nous sommes le mardi 22 décembre, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bon réveil à tous, il est 7h. Le journal, Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Alors à la une de l'actualité ce matin, dimanche on vaccine après le feu vert des autorités. La campagne de vaccination va débuter en Europe à la fin de la semaine. Objectif en France, 1 million de personnes vaccinées d'ici fin janvier. Qui, quand, comment, le mode d'emploi de cette campagne de vaccination dès le début du journal. Les autres titres, Agnès.
Covid toujours à un test de dépistage au bureau, c'est possible. Plusieurs entreprises le proposent. Le spectre de la pénurie de produits frais en Grande-Bretagne. Un accord d'investissement en vue entre la Chine et l'Union européenne. Le suremballage des colis en question. Et puis, si vous n'avez pas encore rempli votre hôte, un beau livre disque à glisser sous le sapin.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, il est l'homme qu'on a envie d'entendre ce matin, celui qui a raflé hier la mairie de Marseille. Benoît Payan en avait toujours rêvé, le voilà maire de la cité phocéenne. À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Tout est allé très vite hier, un peu avant 16h, avec une semaine d'avance sur la date initialement prévue. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour la mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech. 3 heures plus tard, la Commission européenne faisait de même, alors que l'on attendait sa décision que pour demain. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
La campagne de vaccination va donc pouvoir débuter juste après Noël, Véronique.
Oui, le vaccin est efficace et sûr d'après l'Agence européenne du médicament et rien ne prouve à ce stade, dit-elle, qu'il n'est pas efficace aussi contre le variant identifié en Grande-Bretagne. L'autorisation de mise sur le marché est donc accordée pour 1 an et les premières vaccinations vont pouvoir débuter dès dimanche prochain en France notamment. Olivier Véran l'a confirmé hier soir. Le fait que la Commission ait rendu sa décision plus tôt accélère tout le processus. En France, la Haute Autorité de Santé, qui devait rendre son avis après Noël, le rendra finalement juste avant, sans doute le 24 au matin. Un avis très attendu puisqu'il permettra de préciser les conditions d'utilisation du vaccin, étape indispensable pour les médecins avant de le prescrire. La première phase de vaccination en France cible, rappelons-le, 1 million de personnes d'ici fin février.
Alors on le sait, le vaccin BioNTech Pfizer utilise la technique dite de l'ARN messager, une technique nouvelle, jamais utilisée encore à grande échelle et qui suscite parfois certaines appréhensions. On fait le point avec vous Véronique, comment ça marche et faut-il en avoir peur ?
Oui, je rappelle que le principe de ces vaccins, c'est de faire fabriquer à notre organisme la protéine S du virus. C'est ça qui va déclencher une réponse immunitaire et la production d'anticorps. Alors, pour amener l'organisme à fabriquer cette protéine, on va injecter au patient un brin d'information génétique, le fameux ARN messager, qui code la protéine. Ce brin génétique est contenu dans une capsule de lipides dont la composition est similaire à celle de la membrane des cellules, ce qui va permettre à l'ARN messager de s'y introduire pour délivrer l'information. En revanche, comme son nom l'indique, il n'est qu'un messager. Son rôle est d'apporter dans nos cellules une instruction éphémère. L'ARN messager ne fait que passer, il est très rapidement dégradé ensuite et il n'entre pas dans le noyau de la cellule qui abrite l'ADN. Aucune interaction possible, donc pas de danger de nous transformer en OGM.
Merci Véronique Julia, spécialiste des questions de santé à France Inter. Dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. L'acheminement des doses de vaccins depuis l'usine de Purs en Belgique va pouvoir commencer sous très haute surveillance. Des voitures de police banalisées et des drones seront appelés en renfort. Le détail dans le journal de 7h30. Et puis l'image du jour, c'est la vaccination sous l'œil des caméras de Joe Biden, le président élu américain qui a reçu la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech. En attendant, à 2 jours du réveillon de Noël, c'est la ruée vers les tests avant de retrouver parents et grands-parents. Certaines entreprises ont eu l'idée de proposer à leurs salariés, et notamment aux jeunes, souvent asymptomatiques, de se faire tester sur leur lieu de travail. C'était le cas hier de BETC, agence de pub à Pantin, près de Paris. Si tu ne vas pas te faire tester, le test vient à toi. C'est un reportage de Guillaume Fariol.
Un barnum blanc est installé dans un coin du grand hall bétonné. À l'intérieur, les tests s'enchaînent.
Donc la tête légèrement en arrière, je tourne, je retire, c'est fini.
Quelques secondes désagréables. Et voilà une bonne chose de faite pour Myriam, 28 ans.
Voir ses proches et ses parents en sachant qu'on est négatif, je pense qu'on aborde les fêtes de manière plus sereine.
Cet employé aura son résultat d'ici 24 heures. Pareil pour Louis et Grégoire, la vingtaine. Pas sûr qu'ils auraient fait de test sans ce dépistage en entreprise.
C'est vrai que c'était pas mon premier réflexe de le faire puisque je me suis confiné et que j'ai été plutôt responsable. Donc je me disais que c'était pas forcément nécessaire. On saisit la chance de le faire ici, c'est simple. Je suis arrivé, il n'y avait pas de queue. Ouais, une minute max, quoi.
J'aurais probablement été en retard, j'aurais pas été sûr que les résultats arrivent. C'est très bien tombé qu'ils les proposaient aussi longtemps à l'avance.
De quoi rassurer ces jeunes, surtout que certains ont pris quelques risques ces derniers jours. Comme Adrien, 28 ans, les yeux encore rouges après son test.
Il y a plus de brunch que d'habitude, il y a plus de dîner, de déjeuner que d'habitude. On allait faire les courses de Noël ensemble avec d'autres gens. Donc c'est vrai que c'est des lieux où on est moins sûr d'être protégé qu'ailleurs.
Mais attention aux faux sentiments de sécurité, surtout pour les jeunes, souvent asymptomatiques. On peut être négatif un jour, positif le lendemain. Rien ne doit remplacer les gestes barrières.
Des gestes barrières, effectivement, pour éviter une troisième vague à partir du 22 janvier, un scénario que redoutent certains scientifiques. Nous les entendrons dans le journal de 8h.
Et à 7h06, on en vient, Agnès, à la situation en Grande-Bretagne.
Plusieurs médias britanniques annoncent qu'un accord pourrait être trouvé dès la mi-journée entre Londres et Paris pour ouvrir les frontières. Boris Johnson aurait proposé une vaste campagne de tests, ciblant notamment les chauffeurs de poids lourds pour débloquer le trafic. De très longues files de camions se sont en effet formées sur des kilomètres à la poche du port de Douvres et les rayons des supermarchés britanniques commencent à se vider. Correspondance à Londres de Maxime Peigné.
En temps normal, le port de Douvres est la principale porte d'entrée au Royaume-Uni pour les camions de marchandises. La semaine dernière encore, il en arrivait 10 000 par jour depuis la France. Mais depuis dimanche, ses activités sont à l'arrêt et la situation peut rapidement s'aggraver selon Helen Dickinson, patronne de la Fédération nationale des commerçants.
Si les perturbations se poursuivent, on pourrait avoir des pénuries de produits frais dès la semaine prochaine. Donc il va être crucial de résoudre ces problèmes dans les 48 heures qui viennent.
Pour certains Britanniques devant les supermarchés de Londres, la crainte est de trouver des rayons vides d'ici Noël.
Je savais qu'il y aurait beaucoup d'achats de panique, donc je devais venir chercher des provisions pour le repas de Noël.
C'est ridicule, les gens qui font des réserves pour les restrictions, c'est un cercle vicieux. Moi, je n'ai même pas pu trouver de lait.
Peter Alexander est expert en sécurité alimentaire à l'Université d'Édimbourg.
Les stocks existants auraient du mal à supporter une augmentation subite de la demande. Cette situation est presque une répétition du Brexit, mais si les entreprises perdent une partie de leur stock ou n'arrivent plus à en faire davantage, alors elles seront moins prêtes pour le choc qui arrive.
Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Et puis les cartes de vœux de nos cousins d'outre-Manche risquent d'arriver un peu en retard. La poste britannique Royal Mail a suspendu temporairement ses services vers l'Europe. À Bruxelles, il y a des négociations qui avancent. L'Union européenne est en passe de signer un nouvel accord d'investissement avec la Chine. Après, c'est vrai, 7 ans de discussion. Un accord qui devrait ouvrir quelques portes d'un marché chinois qui reste globalement très fermé aux entreprises étrangères. Le détail avec Laurent Kramer.
Si elle marque sur le principe un tournant, les concessions chinoises permettront certes un début d'ouverture au marché chinois pour les investisseurs européens, mais elle reste en réalité très limitée, regrette François Gaudemont, chercheur associé à l'Institut Montaigne.
De la part des Européens, je crois que ceux qui justifient l'accord, en gros, disent on est faible et on n'obtiendra pas mieux. La réalité, c'est bien sûr que la situation est totalement inéquitable. Alors oui, il y a des secteurs qui seraient ouverts, de type finance, biotechnologie, certains aspects de santé, par exemple, mais les entreprises chinoises ont un accès bien plus facile au marché européen que les entreprises européennes n'en ont en Chine.
Cet accord ne permettra pas non plus aux Européens d'accéder notamment au marché public chinois, ni même d'engager la Chine à abandonner le travail forcé, se désole Yves Verrier, représentant de Force ouvrière à l'Organisation internationale du travail.
Ce qui est archaïque en Chine, c'est qu'il n'y a pas de liberté syndicale. Quand on parle en particulier du travail forcé, il faut avoir en tête que la convention qui interdit le travail forcé, par exemple, elle date de 1930, elle n'a toujours pas été ratifiée par la Chine.
Malgré les réticences des députés européens sur cette question, Bruxelles et Pékin semblent bien décidés à trouver un accord de principe juste avant l'arrivée de Joe Biden dans moins d'un mois à Washington.
La suite du journal d'Agnès Soubiran, stop au suremballage, c'est ce que demandent de plus en plus de consommateurs français.
Oui, car le joli cadeau que vous allez trouver au pied du sapin est souvent arrivé dans un carton d'emballage protégé par plusieurs couches de papier bulle. En ce moment, dans les centres de tri des déchets recyclés d'Île-de-France, le volume d'emballage a augmenté de 14% par rapport à l'an dernier, alors même que les restaurants qui fournissent d'habitude beaucoup de déchets sont fermés. Rémi Brancato.
Il y a quelques semaines, Sophie commande un plafonnier sur Internet avec une ampoule. À la livraison, 2 cartons et l'un d'eux est énorme.
J'avais l'ampoule dans son petit carton qui était elle-même dans un plus grand carton rempli avec des petits coussins en plastique pour caler en fait le petit carton dans le gros carton. Ça m'arrive quand même, on va dire, une fois par mois d'avoir une livraison. J'avais reçu une lampe sur pied. Ils avaient j'avais mis des cartons dans des cartons, je pouvais rentrer dans le carton. Et on se retrouve justement en ce moment avec des montagnes de cartons. Alors on voit tout ce que les voisins ont commandé.
Et ces cartons s'entassent ensuite, évidemment, dans les centres de tri, bien plus nombreux que l'an passé.
On est sur des augmentations qui sont de l'ordre de 14%. On arrive à une saturation des capacités.
Éric Césari, le président du SICTOM, le syndicat qui gère les déchets en Île-de-France, est obligé d'investir.
Sur deux centres, on augmente de 15 000 tonnes les capacités d'absorption de nos centres de tri.
Ce qui augmente l'impact environnemental, puisqu'après le tri, il faut recycler ce qui dépense de l'énergie. Alors pour le limiter, certains vendeurs réduisent la taille des cartons. Clément Molavé, fondateur de la marque de vêtements Opal, va encore plus loin.
On propose des emballages réutilisables aux clients gratuitement. Ils peuvent déposer cette enveloppe dans une boîte postale. Cette enveloppe sera ensuite réparée, nettoyée. On génère beaucoup moins de déchets.
Ces emballages réutilisables sont fournis par une entreprise finlandaise. Des Français proposent désormais le même service.
Rémi Brancato. Jean Le Cam élevé au rang d'officier dans l'ordre du mérite maritime. Une annonce hier soir de la ministre de la Mer. Le navigateur est ainsi remercié pour le sauvetage de Kevin Escoffier en plein Vendée Globe. Le directeur de la course et le président du comité de course seront aussi distingués. Jean Le Cam actuellement cinquième au classement du Vendée Globe, un classement dominé par Yannick Bestaven. Enfin, si vos enfants aiment écouter, et on les comprend, La sorcière de la rue Mouffetard ou encore Pierre et le loup, un nouveau disque-livre à découvrir, Duncan et la petite tour Eiffel de Jérôme Attal. L'histoire d'un petit garçon qui visite Paris avec sa classe et évidemment Jacqueline Pétrose, rien ne va se passer comme prévu.
Dans sa classe, Duncan est l'unique rêveur.
Duncan est heureux. Dans le bus, il est assis à côté de Lucie et la tour Eiffel est vraiment impressionnante. Pendant que Duncan rêve, le bus repart sans lui. La tour Eiffel va jouer un rôle très spécial et elle est un beau symbole. Jérôme Attal, l'auteur de ce conte.
Est-ce qu'on grandit trop vite? Est-ce qu'on atteint une forme stable comme la tour Eiffel? Est-ce qu'on ne court pas toujours après nos rêves? Est-ce qu'on rêvait ne devient pas miniature comme les petites tours Eiffel souvenirs qu'on peut acheter? En fait, il y avait plein de correspondances assez sympas à faire.
Impossible de rattraper le bus, même avec l'aide de Johnny, l'écureuil anglais, et Kevin, le rat de Paris. C'est Blaise, le fort des Halles, qui sera le sauveur pour une belle morale.
À quoi ça sert d'être fort si c'est pour frapper les petits?
C'est un fardeau trop grand pour lui, cette force, et quand il va comprendre qu'il peut mettre sa force au service d'un petit être, il va trouver ça mais tellement génial et il va trouver sa place dans l'histoire.
Un texte poétique et plein d'humour et des illustrations de Sylvie Serpris, acidulées et imaginatives.
J'aime pas illustrer littéralement le texte. Par exemple, pour Duncan, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose de très coloré avec des jaunes, des bleus, cobalt, des roses, enfin, essayer d'associer des couleurs comme pour retrouver la dynamique de son texte.
On retient facilement les chansons interprétées par Théo Aboukra et Juliette Bosset. C'est un beau livre-disque sensible et inventif.
Non, je n'entends plus personne.
Duncan et la petite tour Eiffel de Jérôme Attal aux éditions Le Label dans la forêt.
Merci Agnès Soubiran.